Combien pour de Dieu, en quelque sorte, pour se faire bien voir de Dieu. Alors que c'est inutile parce que Dieu nous connaît, il sait. Et avant même qu'on l'aime, lui nous aimait. Donc, je me suis dit, moi, le culte, je le prépare et je le vis avec Dieu, dans sa présence. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, tu es digne que nous te rendions un culte. Mais c'est avec toi que nous désirons le vivre. Alors nous te disons, Seigneur, viens dans notre cœur. Toi qui es notre allié, toi qui nous veux du bien, toi de qui nous n'avons pas besoin d'avoir peur, toi de qui nous sommes toujours sûrs d'être accueillis. Nous te remettons toutes les personnes qui auraient voulu venir et qui n'ont pas pu, afin qu'un signe de ta présence leur soit perceptible. Nous te remettons aussi les enfants et leurs moniteurs qui sont dans les salles en bas, afin qu'une graine de foi soit semée dans leur cœur, qu'ils se souviennent de toi et qu'ils s'attachent à toi. Merci Seigneur pour ta présence avec nous ce matin. Amen.
Je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce que Dean nous a dit. J'ai envie simplement de vous inviter à prendre ce temps de louange, à vivre vraiment pleinement avec Dieu. On a chacun des situations différentes, que ce soit des situations de joie, de peine, de douleur ou de stress, etc. Mais simplement, je vous invite à rentrer dans sa présence et qu'on puisse être dans ce lieu, ensemble, unis, pour louer notre Seigneur. Alors, soyez libres de toute chose, que ce soit pour vous lever ou rester assis, il n'y a pas de problème. Alors que je vous invite à chanter que ces lieux soient visités par sa sainte présence.
Ta vie jaillit son âme. c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. L'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Entendre le son.
Chant, il dit: l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Je vous invite à le chanter.
De recevoir
sa présence je me tiens.
Dans ta présence je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres mon encre soit.
Je vous invite juste à prendre ce temps de prière si vous voulez juste vous exprimer par rapport à ce qu'on chante, par rapport à ce que vous vivez. Merci Seigneur parce que tu es toujours présent malgré nos circonstances, nos situations. Et Seigneur, je veux te remercier parce que tu es toujours là. Merci pour... parce qu'on peut, ouais, on peut toujours se tenir vers toi. Dieu, tu es ma force. On va terminer avec un chant qui est un chant peut-être nouveau, mais qu'on a, je crois, fait plusieurs fois, mais qui me travaille beaucoup tous ces derniers temps, ces derniers jours. Et à chaque fois, je le chantonne même au travail. C'est fort et puissant. Et il est toujours la force, chaque matin, chaque jour. Et je sais que je peux justement compter sur lui et je peux me confier en lui. Alors je vous invite à pouvoir le faire aussi. On va le chanter.
Thank you.
tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout puissant, mon sauveur, règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur, règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. À toi, au roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et nos cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et nos cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh.
Amen. Bonjour à tous. On va faire les premières lectures. Alors, la première lecture se trouve dans le livre de Malachie. Alors, pour ceux qui veulent suivre, ça va être difficile parce que je vais prendre plusieurs versets. Donc, écoutez. Et après, vous pourrez suivre pour Denise. Donc, Malachie, le chapitre 1er, le verset 2. Et ensuite, ce sera surtout dans le chapitre 3. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, mais vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Je vous ai aimé, dit l'Éternel, mais vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont été mis, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
Et dans 1 Jean au chapitre 4, les versets 9 et 10. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés.
Voilà. Alors, comme vous savez, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien faire des quiz. Ah ben ce matin, il n'y aura pas de quiz. Je sais qu'il y en a certains qui sont très déçus parce qu'ils sont venus que pour le quiz. Eh ben, c'est pas beau. Mais rassurez-vous, j'ai un sondage à faire ce matin. Alors, ce sondage, c'est tout d'abord, je voudrais que ceux qui se sont convertis avant l'âge de 18 ans puissent lever la main. Ah ben, dis donc. Avant 18, hein? D'accord. Et gardez toujours votre bras levé. Et ceux qui se sont convertis donc avant l'âge de 18 ans, qui sait qu'il y avait un de leurs parents qui était chrétien ? Ah mais dis donc, c'est pratiquement la majorité des deux tiers. Très bien, merci. Eh bien, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler justement de la conversion dans un jeune âge, ce qu'on peut dire, avant 18 ans, mais aussi par rapport aux enfants de chrétiens. Et je pense que ce verset dans Malachie peut nous concerner. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, mais vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? En quoi est-ce que tu nous as aimé, Seigneur ? Cette question me travaille depuis des mois en arrière. Ce n'est pas que je pose cette question à Dieu, mais j'ai l'impression que certains peuvent se poser cette question, et aussi ce matin. Et peut-être que vous vous posez cette question, mais Seigneur, en quoi est-ce que tu nous as vraiment aimés ? Et en fait, vous posez peut-être la question sur votre place dans le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu vous aime vraiment ? Et est-ce que Dieu existe véritablement ? Et pourtant, ces personnes ont grandi dans un environnement chrétien, ont pris des décisions pour Dieu, mais ensuite, ils se sont refroidis au point d'oublier l'amour de Dieu. Si vous êtes concerné, merci d'écouter. Si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez des personnes qui sont comme ça, merci de prier pour ces personnes. Et je suis très content parce que c'est vrai, comme ça a été dit, comme Denise l'a dit, ben voilà, il y a les ados qui sont aussi avec nous ce matin. Et au lieu que je les vois en bas, ben ils sont là. Malachie. Le livre de Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament, mais pas des moindres. Les indices historiques nous montrent que il a probablement été écrit à peu près en 480 ou 440 avant Jésus-Christ. Le peuple est rentré de l'exil, le temple est reconstruit, le culte fonctionne de nouveau. Tous les paramètres sont là pour que le peuple soit heureux, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait ça. On va faire un petit rappel historique. J'ai juste demandé qu'on projette juste la première diapo. Pour vous rappeler, donc, qu'il y a à peu près en 933, le royaume du nord et le royaume du sud se séparent. Le royaume du nord qui est Israël et le royaume du sud qui est Juda. On peut mettre la suivante. Pour rappel, donc après Salomon, deux rois sont là, le roi de Juda, le roi d'Israël, c'est Jéroboam pour le roi d'Israël et Roboam pour le roi de Juda, donc à peu près 933 avant Jésus-Christ. En 722, c'est la prise de Samarie et c'est la fin du royaume du Nord et la première déportation du peuple juif. Ensuite, en 586, on a la destruction du premier temple, donc le premier traumatisme très important du peuple d'Israël. Ensuite, il y a la période perse qui nous intéresse aujourd'hui. Puisqu'il y a Cyrus, le roi de Perse, qui fait un édit pour permettre à ce que les Juifs puissent regagner sa terre. Il y a la reconstruction du temple et ensuite, environ en 445 avant Jésus-Christ, la restauration des remparts de Jérusalem. Et donc, c'est les deux prophètes de cette époque, c'est Néhémie et Malachie. Merci beaucoup pour les diapos. Merci pour la lumière. Sinon, je ne vois plus rien avec ma presbytie. Et donc, ce qui est particulier avec Malachie, c'est que c'est une période assez calme. Et pourtant, le peuple d'Israël, il n'est pas en paix. Il n'y a pas de projet politique ou religieux, mais le peuple vit dans une certaine misère et sous la domination perse, comme on l'a vu. Le peuple est exploité. Et petit à petit, le peuple va se refroidir, se détourner des principes éthiques de Dieu. Il y a aussi plus de mariages interreligieux. Et le peuple a l'impression que Dieu l'a oublié. C'est vrai que le temple est rebâti, mais rien n'indique la présence de Dieu. Et le peuple se dit, mais c'est incroyable, où est le Dieu de nos pères ? Le Dieu qui faisait des miracles et des prodiges ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de servir Dieu parce qu'il ne voit pas la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas ? Et je trouve que ces paroles du prophète Malachie sont tellement pertinentes pour nous aujourd'hui. Parce que peut-être que vous êtes aussi dans un temps de désert spirituel comme le peuple au temps de Malachie. Peut-être que votre foi s'est érodée petit à petit au fil des années ou même peut-être tout récemment. Et que vous vous posez la même question que ce peuple à Dieu, en quoi est-ce que tu nous as aimés ? Mais Seigneur, en quoi est-ce que tu nous as vraiment aimés ? Et à la place de la joie et de la foi, s'en trouve une période de scepticisme et de découragement. Mais ce que je trouve encore plus pertinent dans ce texte, c'est la réponse de Dieu dans le verset 10 du chapitre 3, « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Je suis frappé par ce texte de Malachie que je vous encourage vraiment à lire, ce prophète, cette semaine, de vous remettre dans ce bain, parce que Dieu, il envoie continuellement des perches tendues à son peuple. « Revenez à moi ». Le livre de Malachie est un véritable plaidoyer de l'amour de Dieu pour son peuple et de renouveler l'alliance qu'il a faite avec son peuple. Et Malachie va placer chacun devant ses responsabilités, prêtres et laïcs. Donc pour nous aujourd'hui, ce message est pour tout le monde, responsable ou pas responsable dans l'Église. Dieu parle souvent à la première personne du singulier. Il parle directement à son peuple par le prophète Malachie. Il rappelle qu'il les aime d'un amour inconditionnel. Et il rappelle que l'alliance aussi qu'il a faite entre Dieu et les hommes est la base pour l'alliance entre les hommes. Et si on commence à se refroidir avec Dieu, on va commencer à se refroidir dans nos relations aussi entre les hommes et aussi dans les alliances que nous faisons. Et Dieu parle aussi par rapport aux alliances dans le mariage. Le point ici, ce n'est pas condamner ceux qui sont dans la souffrance de la séparation ou du divorce, mais c'est de rappeler que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des alliances et que nous devons tout faire pour garder les alliances qui sont entre nous et dont l'alliance du mariage. Le nom de Malachie, qui est aussi Maléachi, est aussi assimilé comme le précurseur du Messie. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament et il va s'entrouvrir des centaines d'années où il n'y aura plus de prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Mais Malachie va préparer la venue du Messie d'Israël et de l'humanité entière, à savoir Jésus-Christ. Et c'est par l'amour de Dieu, comme on l'a lu dans le texte de 1 Jean, que l'alliance entre Dieu et les hommes va se renforcer, va s'établir avec la nouvelle alliance par la mort de Jésus-Christ. Je voudrais vous parler donc maintenant qu'on puisse s'arrêter un tout petit peu sur ce concept des enfants de chrétiens. Là, on a vu qu'on est beaucoup à être concernés par rapport à ça, par rapport à cet état. Et comme je vous ai dit, je pense qu'on peut se retrouver assez facilement dans la position du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils ont entendu les interventions de Dieu dans la vie de leur père ou de leurs parents. Et on peut être aussi dans cette situation, on a entendu parler de Dieu, mais avec le temps, on s'est un peu détourné de Dieu. On a remis en question son amour. Beaucoup d'entre nous, en effet, nous avons eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Comme on le dit un peu, on a grandi une Bible dans chaque poche ou entre deux pages de la Bible. C'est un sacré atout pour nous et pour les enfants, pour nos enfants, sur le plan spirituel, bien évidemment, mais aussi sur le plan humain, parce que je suis convaincu que les valeurs humaines et éthiques et morales que nous transmettons à nos enfants sont un atout majeur pour leur vie et tellement structurant pour le développement d'un enfant et d'un adolescent. Mais malgré tout, même si c'est un atout majeur, je reste convaincu que c'est un chemin personnel qui n'est pas toujours facile et qu'il y a des obstacles aussi à surmonter. Quand on donne aussi sa vie à Jésus à l'âge de 4 ans, à 8 ans, à 10 ans, après on peut se poser quand même la question, est-ce qu'on est vraiment converti? Et peut-être que vous êtes passé aussi comme ça par ces étapes. J'étais assez longtemps moniteur pour des camps aussi, des camps chrétiens, et puis j'étais toujours frappé que certains enfants lèvent toujours la main à chaque appel, à chaque camp, année après année. Et j'étais aussi frappé par justement nos adolescents. Quand ce printemps, je leur ai posé la question, qui c'est qui était assuré d'être sauvé? Eh bien, il y avait une seule personne qui était sûre d'être sauvée, parmi 7 ou 8. Et ça m'a vraiment interloqué. Possible que ce soit la timidité ou autre chose, mais quand même, ça m'a quand même travaillé. D'autres difficultés peuvent arriver aussi aux enfants de chrétiens. n'est pas une maladie, mais je pourrais appeler ça le syndrome de caméléon. C'est-à-dire, ils changent de couleur de peau en fonction de leur environnement. À savoir que quand ils sont au collège, quand ils sont au cirque, quand ils sont avec leurs copains, ils sont comme le monde. Et puis quand ils arrivent au groupe de jeunes, au caté, ils sont comme l'église, comme le pasteur, comme le moniteur. Et puis, ce n'est pas seulement à l'adolescence ou quand ils sont jeunes adultes qu'ils ont ça. Ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je crois qu'à un moment donné, ils doivent de toute façon choisir entre le monde ou Dieu. Et malheureusement, moi je ne sais pas quelle est votre expérience, mais j'ai eu beaucoup d'amis qui, à 40 ans, ils ont fait le mauvais choix. J'appellerais le mauvais choix. Ils n'ont pas choisi Dieu. Et moi, ça me questionne énormément. Ça me pose beaucoup de problèmes. Et pourtant, je sais que ces personnes sont dans la main de Dieu. Ces personnes ont fait le choix, à un moment donné, de servir Dieu et ensuite, ils l'ont mis de côté. Une autre difficulté des enfants de chrétiens, c'est qu'ils ont été tellement protégés dans une enfance dorée. En plus, ils ont préféré choisir une école chrétienne. Je n'ai rien contre les écoles chrétiennes, bien au contraire. Mais après, tout d'un coup, ils débarquent dans le monde et ils sont confrontés à beaucoup de tentations, à beaucoup de pensées, à des philosophies différentes, qu'ils sont totalement déboussolés. Et je ne parle pas seulement de la drogue, de l'alcool, de la sexualité. Je parle aussi d'autres courants qui peuvent être aussi source de tentation, des nouvelles philosophies, des nouvelles pensées religieuses, une pensée matérialiste, scientifique. Et là, la tentation peut être grande de se dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste ce que j'ai entendu à l'école du dimanche, au caté? Beaucoup de nos enfants dans notre église, et je trouve que c'est un immense privilège, font des études aussi académiques. Et pourtant, il faut prier vraiment pour eux. Parce que quand vous arrivez à l'université, vous êtes confronté à des nouveaux types de pensées avec les autres étudiants, avec les professeurs, qui peuvent être des modèles pour vous et qui n'ont absolument pas une approche chrétienne de la vie. Et on peut être drôlement remis en question dans nos pensées. D'où l'importance de leur permettre d'avoir une réflexion déjà maintenant critique sur la foi, mais sur la vie aussi en général, sur les philosophies que nous avons, sur les différentes religions, et de leur donner cette pensée critique, mais animée par l'Esprit Saint de Jésus, pour que ces jeunes puissent tenir le coup jusqu'au bout. C'est tellement important qu'il y ait aussi des jeunes chrétiens, des étudiants chrétiens dans le monde académique pour être des témoins de l'amour de Jésus. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui conduit à ce que ces jeunes adultes, vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez gardé votre foi jusqu'au bout? Eh bien, ce que je crois, c'est que vous avez eu une relation vivante avec Dieu. Et j'insiste parce que je crois que vous l'avez expérimenté dans vos émotions, mais ça a été renouvelé également dans votre intelligence. Je suis convaincu qu'il faut les deux, il faut autant vivre quelque chose de très fort dans notre cœur comme avoir compris quelque chose dans notre intelligence. Si on n'a pas les deux, et je dirais dans plus en plus si on n'a pas les deux, ça va être difficile de tenir votre foi jusqu'au bout. Parce que c'est une chose de comprendre ce que Dieu a pour nous, son plan pour nous, sur le plan intellectuel, sur le plan de la compréhension de la Bible. Mais si on n'a pas expérimenté une vraie repentance, si on n'a pas expérimenté qu'on est vraiment des pécheurs séparés de Dieu, eh bien je crois que ça va être difficile de tenir jusqu'au bout notre foi. Parce qu'on va poser la question à un moment donné, mais Seigneur, en quoi est-ce que tu nous as vraiment aimés? Et de la même manière, si nous faisons que de vivre dans nos émotions notre foi, eh bien, tôt ou tard, nous serons confrontés à des pensées différentes, des pensées de philosophes, de pensées du monde qui sont très pertinentes. Et juste ce que vous avez vécu, ça va être un décalage et ça va être difficile à tenir cette foi. Et nous, évangéliques, nous sommes les enfants de la réforme. Et c'est une belle chose. Enfants de la réforme, ça veut dire seul par la foi et seulement par la grâce que nous sommes sauvés, pas par nos œuvres. Et nous, évangéliques, nous mettons en avant la condition pour avoir le salut de la conversion. Et nous faisons bien. Et nous devons admettre que la conversion d'un enfant, comme chez d'un adulte, peut se conjuguer de manière très différente. Il y a des vraies conversions, moi je ne sais pas à quel âge vous pouvez dire, à quel âge vous êtes converti, mais il y a des vraies conversions de personnes, à 6 ans, ils se sont vraiment convertis. Moi je me rappelle toujours le témoignage d'Henri Blocher, ce grand théologien, je trouve, francophone. À 6 ans, il s'est converti et il a eu une vie de dévotion énorme. Il y a d'autres personnes qui, à 11 ans, ils se sont convertis, à 17 ans, ils se sont fait baptiser, comme Xavier Schmitt, qui n'est malheureusement pas là, mais c'est son anniversaire, peut-être qu'il pensera à nous. Et d'autres personnes, comme moi, j'ai eu une conviction que Dieu était à mes côtés depuis tout petit, mais c'est à 15 ans que j'ai fait vraiment l'expérience de ce que c'est d'être pécheur, de me repentir et de sentir vraiment l'amour de Dieu dans ma vie. Notre point commun, c'est que nous avons tous une relation vivante avec Dieu en tant qu'enfant, mais que nous avons confessé notre foi en Jésus-Christ quand nous avons eu l'âge de la raison. En lien avec ce commandement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Eh bien, je crois que le sondage qu'on a expérimenté ensemble, que nous avons vu, rejoint les sondages que des instituts font aussi dans les milieux évangéliques, que 2/3 des conversions se font avant l'âge de 18 ans. Et que dans ces 2/3, il y a une grande majorité qui ont eu une éducation chrétienne. Et je trouve que c'est un beau miracle que de savoir que les promesses que Dieu fait à nos enfants, par les parents, eh ben Dieu tient ses promesses et que c'est une véritable bénédiction spirituelle pour nos enfants. Nos enfants, en effet, ont vécu dans la présence de Dieu. Ces enfants ont entendu la parole de Dieu. Ils ont vécu dans une éthique chrétienne. Ils ont vécu à travers la foi de leurs parents, mais à un moment donné, ils doivent décider pour eux-mêmes. Mais en ce qui concerne nos enfants, il ne faut pas oublier que le message de la Bible est valable vraiment pour tout le monde. Nous sommes par nature pécheurs et nous avons besoin du pardon de Dieu. Et cela pour être sauvés. C'est vrai que le texte de 1 Corinthiens 7,14 m'a toujours travaillé, je ne vais pas le lire, mais peut-être certains se rappellent, c'est de savoir que si un des deux parents, nos enfants seront sanctifiés par notre présence. Et je trouve que c'est une promesse extraordinaire. Mais on ne doit pas oublier que qu'on ait des parents chrétiens ou pas, on doit passer par la conversion. Il n'y a pas de statut particulier. Parce qu'il n'y a pas eu de statut particulier pour les enfants d'Israël, parce que certains se sont détournés de Dieu, mais d'autres sont restés dans la promesse. Par contre, ce que je suis convaincu, c'est que nous pouvons vivre, même avant l'âge de la raison et de la capacité de discernement, on peut vivre une relation profonde avec Dieu, parce que Dieu, il n'y a aucun obstacle. Dieu s'approche des enfants comme des adolescents, comme des adultes. Et nous pouvons avoir la conviction d'être aimés et d'aimer. Mais cette expérience doit être vraiment ratifiée à l'âge de la raison, en prenant conscience de la notion du péché et en choisissant d'aimer Dieu. Et je dirais que c'est le but pour nos enfants. Mais quand je dis nos enfants, ce n'est pas seulement nos enfants de chair, mais c'est aussi la responsabilité de l'Église vis-à-vis des enfants de notre communauté. Et ce n'est pas seulement les moniteurs de l'école du dimanche. C'est aussi vous tous qui côtoyez ces enfants. Nous devons les amener à expérimenter l'amour de Dieu, à prendre conscience de la notion du péché et à choisir, à les aider à choisir d'aimer Dieu, mais jusqu'au bout, à garder la foi jusqu'au bout. L'enfant doit vraiment être mis en marche par sa famille et par l'Église sous la grâce de Dieu, puis on doit l'aider à ce qu'il prenne une décision personnelle par le Saint-Esprit pour avoir l'assurance d'être sauvé. Quel privilège, mais aussi quel combat! Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce que vous prenez du temps pour prier pour les enfants de la communauté? Eh bien, moi, je remercie Prisca, qui ne semble pas être là, mais qui a pris cette initiative parce qu'elle avait à cœur de prendre ces lundis après-midi, c'est les moments de prière des mamans, pour prier pour les enfants de la communauté. Avant de poursuivre, je voudrais laisser la place à deux témoignages de personnes qui sont dans notre communauté. Donc, je vais demander à Claire-Anne et à Anne de s'approcher.
Bonjour. Je vais vous parler brièvement de Jésus dans ma vie. Dieu a voulu que je naisse dans une famille chrétienne et m'a tenu la main dès le premier jour et pendant toute mon enfance. École du dimanche, cathée à l'église évangélique de Mérin, camp de la Ligue, j'ai baigné là-dedans jusqu'à l'adolescence. Après avoir terminé le cathée, j'en ai eu le ras-le-bol et j'ai pris de la distance avec l'église en général, sans pour autant renier Jésus et la foi, mais j'ai mis tout ça en veilleuse. J'avais eu ma dose. Jésus n'est cependant jamais resté loin de moi. Il avait toujours une petite place dans un coin de mon cœur, mais il n'avait plus la première place dans ma vie. Petit à petit, j'ai lâché sa main, mais lui a continué à prendre soin de moi et à me protéger. Il avait un plan pour ma vie, son plan. Son plan était déjà prêt bien avant ma naissance. En effet, Dieu a voulu que je choisisse, par hasard, de partir à l'île Maurice dès la fin de mes études en 1990. Il savait que j'allais y rencontrer Rajan pour la première fois. Il savait aussi que 4 ans plus tard, nous allions nous marier et que j'allais renouer avec le Seigneur et retrouver l'église évangélique de Mérin. Merci Seigneur de m'avoir toujours tenu la main. Et merci parce que je sais maintenant que tu tiens la main de Rajan, mon mari, de mes enfants, Mélissa, Ludovic, David et Justine, que tu les protèges et que tu as un plan pour leur vie. Ton plan. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. Psaume 139, verset 5. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Psaume 119, verset 105. Tu sais tout de moi, que je sois assis ou que je me lève. Psaume 139, verset 2. Et le psaume 121, verset 5 à 8. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours.
Alors moi, je suis aussi née dans une famille chrétienne. J'ai baigné dans l'ambiance de la foi depuis tout petite. On allait à l'église tous les dimanches. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne remettait jamais en question. Je me suis mariée à 20 ans. À 24 ans, j'étais divorcée. Et là, j'ai commencé à vivre une vie, je vais dire, désordonnée. Mais j'allais à l'église tous les dimanches. J'avais un collègue qui était intéressé par la foi, par les questions de la Bible. Et comme il savait que j'allais à l'église, eh bien, on avait des conversations intéressantes. Et moi, ça ne me gênait pas de dire que Jésus était mort pour nos péchés et je péchais allègrement. Quelques années après, j'ai rencontré Alexandre, on s'est mariés et nous avons perdu notre premier enfant après 5 mois de grossesse. Et c'est là où j'ai lu le livre de frère André, Le contrebandier. Et quand j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui étaient prêts à sacrifier leur liberté et même leur vie par amour pour Dieu, je me suis dit, ah ben c'est ça dont j'ai envie. Et ça a été le début de ma soif de Jésus. En 1983, l'Église protestante a organisé une campagne d'évangélisation qui s'appelait « Vie nouvelle ». Et pendant 15 jours, ma photo s'est baladée sur les bus de Genève avec le logo « Vivre autrement ». Et j'ai reçu un téléphone de mon ancien collègue. Il n'a pas été surpris que je fasse de la pub pour Dieu. Il ne s'est pas dit « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment c'est possible ?» Vous savez la question qu'il m'a posée ? Ça t'a rapporté combien ? Ce jour-là, le Seigneur m'a fait comprendre que quand on se dit chrétien, on porte son nom et donc on l'engage. Et que moi, par ma vie, je l'avais déshonoré. Je n'ai pu que m'humilier devant mon ancien collègue et redemander pardon à Dieu. Et merci Seigneur, parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Mais j'ai jamais oublié la leçon. Et que toute la gloire revienne à Jésus.
Merci à Claire-Anne, merci à Anne pour ces témoignages qui sont très touchants. Pour terminer, je voudrais vous parler simplement sur les doutes qui amènent au retrait spirituel. Pour certains enfants de chrétiens qui ont expérimenté l'amour de Dieu, un jour, en effet, je pense qu'ils peuvent poser cette question à Dieu : en quoi est-ce que tu nous as aimés ? Pour donner une ébauche de réponse, je reprendrai la parabole du semeur. Je ne vais pas la lire, c'est dans Matthieu 13, les versets 18 à 23. Mais on entend que Jésus nous dit qu'il faut entendre la parole de Dieu et la comprendre pour être ancré en Dieu. Quels sont les obstacles ? Est-ce que quelqu'un se souvient de cette parabole du semeur et qui peut dire quels sont les obstacles à la croissance de la parole de Dieu dans nos vies? Je ne vais pas poser la question à Roger parce que je suis sûr qu'il les connaît tous. Les soucis, bravo. Quoi d'autre? La sécheresse, absolument. Les joies du monde, bravo Alexandre. Quoi d'autre? C'est juste, pardon? Oui, la bonne terre, ça en effet, ça c'est pour que ça puisse porter du fruit, c'est juste. Et dans les autres obstacles, l'ivraie, c'est juste. Je reprends aussi au niveau de l'interprétation que Jésus donne par rapport aux épines, les ronces. Donc il y a l'incompréhension de la parole de Dieu, pas oublier l'œuvre du malin, les tribulations, les persécutions, les soucis du monde, comme l'a dit Anne, et les séductions des richesses, comme l'a dit Alexandre. Je répète, l'incompréhension de la parole de Dieu, l'œuvre du malin, les tribulations, les persécutions, les soucis du monde et la séduction des richesses. Et ben moi, j'ai bien aimé la réponse de Anne et d'Alexandre parce que c'est les deux pôles, je dirais, extrêmes. Les soucis de la vie et la séduction des richesses. En effet, il y a des personnes, à cause des épreuves et la souffrance de la vie, peuvent à un moment donné vraiment douter de l'amour de Dieu. Et l'incompréhension et la révolte peuvent se glisser dans leur cœur. Si j'ai vécu avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu, si mes parents qui ont prié pour moi, si leur foi était véritable, pourquoi ces épreuves ? Pourquoi tant de souffrances dans ma vie ? Mais il y a aussi cette autre question. Ma vie a tellement réussi sur le plan de mon mariage, du travail, la santé, les finances, tout baigne, tout va tellement bien. Mais pourquoi mettre Dieu là-dedans ? Ce n'est pas grâce à Dieu que j'ai fait tout ça. C'est grâce à moi. Et c'est grâce à la séduction de cette vie, de cette richesse du côté matériel. Eh bien, pour les personnes qui sont plus dans cette première catégorie, pour les personnes qui sont éprouvées dans la vie, je peux que vous dire, et nous sommes tous là pour dire que nous sommes de tout cœur avec vous, et que personnellement, ces situations me questionnent énormément. Je vois aussi beaucoup de souffrances humaines dans mon travail en tant que médecin et particulièrement en tant que psychiatre pour enfants et adolescents et qui touchent aussi les familles chrétiennes. Et ça me questionne beaucoup. Je ne comprends pas. Pour certaines choses, je peux comprendre, mais il y en a d'autres que je ne comprends absolument pas. Et c'est ce que Henri Blocher a nommé les mystères opaques. Et ça m'a fait du bien quand voilà, quelqu'un a pu différencier ces deux mystères, les mystères lumineux que nous retrouvons aussi dans nos vies. Comment est-ce que Dieu a pu me choisir? Moi, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un mystère totalement lumineux. Mais quand on a des épreuves dans notre vie, pour moi, c'est des épreuves totalement opaques. Mais malgré tout, ce que je suis sûr, le seul qui peut donner un minimum de sens à cela, à nos épreuves, le seul moyen de s'en sortir, je crois vraiment, c'est de se laisser aller dans les bras de notre Père Céleste, se laisser consoler par lui et se laisser aimer. C'est vrai que je suis assez convaincu que la Bible ne répond pas à tous nos pourquoi et qu'on aura une réponse quand on sera près de lui. Ça, je suis sûr. Mais ce que je suis sûr aussi, c'est que Dieu répond au comment. Et sa réponse, c'est par son amour. Pour les bienheureux de la vie ou les sceptiques spirituels, je dirais pas tant mieux. Mais je dirais, n'oubliez pas d'où vous êtes venus. Ce que vous avez vécu dans votre enfance et les bénédictions qui ont été faites pour vous par vos pères. Et rappelez-vous que nous sommes bien peu de choses sur cette terre. C'est vrai que sur le plan de la philosophie ou des sciences, nous chrétiens, nous n'avons pas toujours des réponses à donner. Mais ce que je sais, c'est que devant la mort, la Bible donne une réponse claire et nette. Une amie psychiatre qui n'a aucune foi m'a dit qu'un jour, en effet, que la psychologie, les sciences humaines, la psychiatrie peuvent donner pas mal de réponses quand même pour des non-chrétiens, même pour trouver un sens dans leur vie, ici. Mais par rapport à la mort, les sciences humaines ne donnent pas de réponse. Et je dirais que c'est ça. Moi, je ne sais pas comment et le pourquoi de la mort. Mais par contre, je sais comment est-ce que je vais passer la mort, ce cap, accompagné du ressuscité des morts, Jésus-Christ. Donc ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à reconsidérer votre vie, à vous rappeler de vos premiers engagements en tant qu'enfant ou jeune adulte par rapport à l'amour que Dieu vous a témoigné dans votre passé. Et je vous encourage vraiment à revenir à Dieu. Si vous n'êtes pas concerné par ce message ce matin, béni soit le Seigneur. Mais si vous connaissez des personnes proches de votre famille, prenez du temps pour parler aussi avec eux. Mais je voudrais simplement vous dire aussi, prenez surtout du temps pour prier pour eux. Vous avez des insomnies, tant mieux, priez pour ces personnes. Vous ennuyez dans votre travail, tant mieux, priez pour ces personnes. Je suis convaincu de la puissance de la prière pour nos proches, pour nos enfants, pour nos voisins. Mais je voudrais vraiment faire un accent sur les personnes de nos familles, les membres de nos familles qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu ou ces personnes qui se sont éloignées de Dieu. Pourtant, la semence est tombée dans leur terre. Mais priez pour que le malin ne puisse pas enlever ce qui a été semé. Vous posez la question, Seigneur, en quoi est-ce que tu nous as aimés? Eh bien, il y a une seule réponse pour ce matin, c'est cette table qui est dressée pour vous. Je suis convaincu, même si Dieu nous aime de manière inconditionnelle, quand nous posons quand même cette question à Dieu avec tout ce qu'il a fait pour nous à la croix, il y a la peine de Dieu. Son cœur saigne quand on lui pose cette question. Mais ce n'est pas grave, parce que la réponse sera toujours le pain et le vin. Prenez-le ce matin dans cette optique, et que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles. Amen.
C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et il les aime jusqu'au bout. Jésus sait qu'il est venu de Dieu et qu'il va auprès de Dieu. Il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. Alors, pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette et il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Le lendemain, à la fête de la Pâque, pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction. Il partage le pain et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant « Buvez-en tous. » Oui, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Notre Dieu, notre Père, tout a été accompli par la mort de Jésus. C'est l'alliance nouvelle. Merci pour le corps brisé de Jésus, le sang versé de Jésus sur la croix pour nous. Et tu nous dis encore ce matin que tu nous aimes, du même amour que tu aimes Jésus. Et tu nous dis, revenez à moi. Revenez à moi, parce que tout a été accompli. Seigneur, ton amour est si grand. Béni soit ton nom. Amen.
Nous ne sommes pas dignes d'être aimés de Dieu, mais il nous a aimés le premier. Si nous croyons dans notre cœur que Jésus est mort pour nos péchés, et ressuscité pour nous donner la vie, nous sommes dignes de nous approcher de cette table. Le vin est autour, le jus de raisin est dans les verres violet-rose. Soyez bénis pendant cette sainte scène. Et si quelqu'un veut la coupe, qu'il me donne, qu'il me fasse signe. Également, vous êtes libre de prier dans le sens que Santoche nous a parlé. Merci Seigneur de ta bénédiction sur nos familles. Nous te remettons spécialement nos enfants, nos adolescents. Nous te prions pour eux, mais nous te prions en sachant que toi-même tu les cherches, que toi-même tu les aides, tu les aimes et que tu ne les abandonneras jamais, comme tu ne nous as pas abandonnés. Merci. Amen. C'est maintenant le moment de dire d'une manière particulière que nous aimons Dieu. C'est le moment de l'offrande.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient le doux.
Asseoir. Seigneur, merci du signe que tu as mis dans notre cœur que tu es vivant. Merci de tout ce que nous avons réfléchi et qui nous a fait dire « oui, c'est vrai ». Merci de tous ceux qui étaient là, dans l'Église et ailleurs, comme témoins, parfois inconscients, de toi. Cette offrande, nous te la remettons pour tous ceux qui portent ta parole, qui sont des témoins dans le monde entier, aussi amérins. Merci Seigneur pour eux. Merci pour l'Église évangélique de Mérin. Amen. C'est le temps des annonces. Roger.
Je m'avance un peu, mais si vous permettez, j'aimerais juste dire que ceux d'entre nous qui ont vécu ce temps d'égarement, d'éloignement, je pense que vous pouvez interroger ceux qui ont témoigné. On n'est pas fiers de ça. Et c'est bien mieux de rester main dans la main avec le Seigneur dans l'adolescence et puis entrer dans la vie en suivant ses choix. Je suis là pour les annonces. Il n'y aura pas temps libre cet après-midi. Pour différentes raisons, on a décidé de ne pas faire temps libre cet après-midi. C'est le temps de Ramadan. Il y a encore des brochures. On peut prier. Il y a un site très intéressant que Don Heckman peut nous transférer aussi pour prier pour le monde musulman. Donc, des brochures encore disponibles pour prier pour ceux qui sont dans l'islam. Dimanche prochain, sortie des potes, vous avez reçu une information si ça vous concerne votre famille, vos enfants. Dimanche prochain, c'est aussi le culte d'adieu. Bertrand Barral va changer de ministère et il y aura un culte d'adieu pour Bertrand dimanche prochain, suivi d'un repas. Si vous pensez être présent, il y a une liste où on peut s'inscrire sur le tableau. Samedi 2 juillet, il y a une soirée free time, donc les jeunes adultes, qui aura lieu à Colonie. Renseignez-vous auprès de Benjamin si vous pensez partager à cette soirée. Vous allez tout découvrir sur le Millennium. Et puis dimanche 3 juillet, premier dimanche de juillet, c'est le premier culte partagé. Pas de culte ici, culte au CEPOM, et puis en alternance pendant les mois de juillet et août. Mais dimanche 3 juillet également, culte du réseau évangélique à Colonie, où nous animons la garderie. Donc nous sommes dans l'attente encore quelques personnes pour aider dans... garder les petits-enfants le dimanche 3 juillet à Colonie. C'est l'été qui se prépare, vous ne l'avez pas remarqué, mais c'est le cas. Il y a potentiel, première semaine de mois de juillet pour les enfants, des flyers à disposition également. Et puis, deux fois Kids Games pendant les mois de juillet et août, pour nos enfants ou pour des enfants de notre connaissance, l'occasion aussi de découvrir l'amour de Dieu. Dernière annonce, la bibliothèque sera sortie comme d'habitude et à l'approche de l'été, c'est l'occasion de se procurer de la bonne lecture. Donc, il y en a dans plusieurs langues, plusieurs styles pour plusieurs âges, donc n'hésitez pas à venir chercher de la bonne lecture pour ces mois un peu plus décontractés. Merci beaucoup. Il y a Claude qui va nous donner un compte-rendu de la rencontre générale de notre famille d'église, la Fray, qui a eu lieu le week-end dernier.
Bonjour. Alors, donc, cette rencontre générale de la Fray donc, a eu lieu le 11 juin à La Rochette, à Neuchâtel. Nous avons commencé par une méditation du pasteur David Valdez sur Marc 16, les 3 A. Aller, annoncer, aimer. Ensuite, nous avons parlé du guide de l'employeur en cours de rédaction par la Fray. Un guide pour rendre utilisable le code des obligations pour les églises dans leur rôle d'employeur. Gestion des ressources humaines envers les employés des églises que sont les pasteurs. Deux aspects développés dans le guide. D'une part, l'obligation légale et d'autre part, la vision de l'église. Les églises seront consultées et ce guide passera en votation donc dans les colloques en novembre 2016. Nouveau ministère, donc Willy Schilknecht et Philippe Rossel vont ou ont pris leur retraite. Donc Willy sera remplacé par William Rosenboom, donc à Grand-Lancy. Priscille et Nicolas Michel occuperont un poste à plein temps à Villars, donc notre église sœur à Lausanne. Et Thierry Wirth aura un ministère à 30% au Locle. Un pasteur est également recherché du côté de Colonie. Au niveau des activités de la Fray, la commission des migrants s'est déjà réunie, donc elle est ouverte pour ceux qui s'y intéressent. Et le but est de recenser un peu les actions des églises, encourager et informer dans ce domaine. Commission jeunesse, donc Sébastien Demière, qui est un responsable, a augmenté son poste. Sa fonction se répartit ainsi, donc préparation des événements, soit des camps de ski, camps passion, l'événement One, qui aura lieu au mois de novembre, est également à disposition des églises pour des activités, des groupes de jeunes. Commission d'implantation d'églises, donc il y a tout un groupe qui se prépare, M4 en Suisse romande, et il y a aussi une aide au projet des églises, au niveau de l'évangélisation ou bien au niveau de la formation des disciples. Réaffectation du fonds tremblement de terre en Italie. Vous vous rappelez, on en avait parlé au colloque, pour les migrants. Donc après plusieurs contacts, la Fédération protestante d'églises en Italie a été retenue pour l'affectation de ce fonds dans un projet qui s'appelle Espoir en Méditerranée et qui concerne la région de Sicile et de Lampedusa. Il se compose de 2 parties. D'une part, une maison d'accueil sur place pour les migrants et d'autre part, d'essayer de faire un corridor humanitaire par avion pour éviter justement les embarquements clandestins et les passeurs sur des bateaux plus ou moins solides. Ce projet réunit plusieurs mouvements chrétiens évangéliques, protestants et catholiques. Il y a eu tout un débat aussi sur la reconnaissance des églises évangéliques par l'État. L'enjeu, c'est un peu l'accès aux aumôneries et à la consultation publique. La situation actuelle, donc les lois cantonales ne peuvent pas officialiser les fédérations comme la Fray et d'autres, parce qu'elles sont supracantonales, elles concernent plusieurs cantons différents. Donc, faut-il créer au sein de la Fray des sections cantonales? Est-ce que l'État reconnaît les évangéliques? L'État ne reconnaît pas les religions, étant laïque, mais elle reconnaît les communautés qui pratiquent les religions pour leur rôle social et culturel. Qu'est-ce que l'État attend des évangéliques? Que les communautés s'engagent pour la paix sociale et pour la politique du canton. Qu'est-ce que l'État offre? C'est d'abord un accès. Qu'est-ce que l'État offre aux églises évangéliques qui seraient dans la démarche? D'abord un accès au contrôle de l'habitant, accès aux aumôneries, mais pas pour les enfants, accès à des missions spécifiques qui pourraient être subventionnées et aussi à des missions ou des consultations officielles par rapport au sujet qui les intéresse. Conclusion. Est-ce que les églises évangéliques seraient reconnues d'utilité publique? Est-ce que là, il y a une place à prendre? C'est la question. Commission Enfance, donc une nouvelle version du site internet a été mise en place, il s'appelle Ministoc, c'est peut-être pour les moniteurs. Ensuite, au niveau de la formation Free College, une seule lauréate a obtenu le diplôme, il s'agit de Véronique Cuper de La Colline, je crois que les jeunes la connaissent. Pour les groupes de maison, donc il y a des DVD ou des livres disponibles sur le site de la Fray pour animer une séance. Jacques Blandonnier a également réimprimé le livre « Jésus-Christ, Dieu avec nous ». Ensuite, il y avait un sujet par rapport à l'escale, donc un peu d'histoire. En 1960, un vestiaire se met en place pour soutenir les missionnaires. En 1993, naissance de l'association humanitaire L'Escale. Et en 1998, aménagement dans les locaux à Saint-Pré. Aujourd'hui, L'Escale, c'est 7 employés, 70 bénévoles et 76 tonnes d'habits et matériel distribués et envoyés. L'Escale souhaite aussi se développer dans d'autres cantons. Maintenant, au niveau des activités du service missionnaire évangélique, donc, il y a eu un engagement interne de Nathalie Pellet de la Fraternelle à 20%, qui s'occupera de projets et aussi des tâches administratives. Il y a eu un voyage au Népal pour visiter Marianne Brockville et pour assister aussi à l'inauguration officielle de son école de laborantin. La famille Frézard, qui travaille parmi le peuple Caron du Sénégal, donc ils ont signalé qu'ils avaient fini la traduction de l'évangile de Luc dans la langue du pays. Ensuite, la famille Saber, en Égypte depuis 29 ans, donc nous expliquait la création d'un centre pouvant accueillir jusqu'à 900 personnes. Ils ont eu plusieurs menaces de mort au temps de la présidence des frères musulmans. Ensuite, nous avons parlé d'Emmaüs. Donc, le responsable David Richir explique que l'école biblique d'Emmaüs sera transformée en haute école de théologie pro. Pro comme protestante, professante et professionnalisante. Donc, l'enseignement sera axé sur la théologie appliquée, soit pour la mission et soit pour l'Église, et non pour faire des experts comme dans une faculté. Cette HET, après un an, donnera un certificat, après 3 ans, un bachelor, et après 5 ans, un master. David espère une accréditation par la Confédération sous l'appellation de Haute École de Théologie de Suisse romande. Voilà, au niveau, encore un dernier point, donc au niveau des églises, la Pélisserie fête ses 200 ans d'histoire, et la Passerelle de Vevey cherche aussi un pasteur jeunesse. Donc voilà, dans les divers, donc on aura notre prochaine rencontre le 26 novembre à Chalon, et l'événement One, et ça on fera de la pub au mois de novembre, avant novembre, c'est justement pour les jeunes de 25-35, donc c'est quelque chose qui est en train de se préparer, qui a l'air bien sympa. Ensuite, la séance est close par le film Le lac de sel, qui est en fait un film qui vient d'Égypte, qui vient des Sabers, et qui nous fait vivre un petit peu la menace de mort qu'ont vécu cette famille pendant les frères musulmans. Et c'était assez prenant. C'est assez prenant. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est présent, si Armand, tu veux, ou bien Charles Abel, vous voulez compléter? C'est tout bon. Je vous remercie.
Avant de recevoir la bénédiction, je vous invite à réaffirmer notre conviction d'être aimé de Dieu par le chant « Louons et adorons ». Vous pouvez vous lever.
Puissant, chantons et proclamons qu'il est vivant.
Voilà, je vous invite à rester debout pour entendre la bénédiction que je veux simplement transmettre dans Malachi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Que le Dieu de Jésus-Christ vous accorde sa bénédiction bien au-delà de ce que nous pouvons espérer. Amen et bon dimanche.